ça nous plonge un peu dans la nostalgie, c'est aussi là, n'est-ce pas?
Absolument. Vous avez choisi des œuvres merveilleuses. Je vous en remercie.
Est-ce que, justement, la messe des anges, qui est parfois encore, peut-être pas interprétée entièrement, mais dont plusieurs extraits, on les entend parfois lors de célébrations, que ce soit des funérailles ou des célébrations un peu plus majestueuses, ça reste quand même de la belle musique?
C'est de la belle musique. Ici, on a surtout aujourd'hui de la musique sacrée. C'est une forme de musique très, très prisée, je pense. Autrefois, aujourd'hui, on évolue un petit peu aussi vers le populaire, mais on ne peut pas enlever la qualité de ces belles œuvres-là. On a commencé avec Josquin des Prés tout à l'heure. C'était un excellent début. La musique...
Ça reste universel.
Part de là, la musique part de là.
Est-ce que avec la baisse de la pratique religieuse, évidemment, il y a des chorales qui ont dû disparaître, est-ce que c'est plus difficile d'avoir accès à un répertoire nouveau, parce qu'il se compose peut-être encore beaucoup de musique, mais peut-être moins qu'autrefois?
Oh, je pense pas qu'il s'en compose moins qu'autrefois.
Non.
Vous savez... La musique a évolué avec le temps. Si on prend Nabucco, qui c'est une des premières œuvres qui s'est chantée dans la rue,
oui.
Parce que c'était facile. Les gens qui ont assisté à ça, ils s'en allaient, l'air est resté dans la tête, puis ça continuait. Mais c'était pas comme ça avant. Ça a fait avancer des choses, que des gens ils se sont mis à composer plus du populaire, qui a été longtemps rejeté. On sait que...
C'est curieux parce que vous parlez de Nabucco, ça a même été repris par des chanteurs populaires. Je pense à Nana Mouskouri qui en a fait un grand succès.
Oui. D'ailleurs, Nana Mouskouri a chanté en français cette œuvre-là parce qu'elle l'a entendue d'une chorale qui venait de la région.
Ah oui, intéressant.
De Belleuil-Saint-Hilaire, qui était au même spectacle que Nana Mouskouri. Et quand elle l'a entendue, elle a décidé de la chanter.
C'est vrai. Alors, Belleuil a donc un droit de regard sur cette interprétation de Nana Mouskouri. C'est ce que vous dites. Intéressant.
Oui.
Mais toujours est-il qu'effectivement, la fréquentation moins nombreuse peut-être des églises a peut-être influé sur la disparition de certaines chorales.
Définitivement. Moi, je suis chanceux d'avoir une chorale qui a beaucoup d'assiduité. Je sais que dans beaucoup de paroisses, les choristes sont là surtout à Pâques et à Noël. En ayant beaucoup d'assiduité, ça me permet de conserver une certaine qualité. Sauf que il reste que dans toutes les églises du monde, il y a un vieillissement de la population et la relève est difficile. Donc, à un moment donné, la réalité nous rattrape.
Nous amorçons cette deuxième partie d'émission avec, une fois de plus, Mozart, le Requiem en ré mineur, qui est la dernière œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart, qui a été composée pour le comte Franz de Walsegg, vous savez, celui qu'on a cru qu'il commandait l'œuvre dernière à Mozart. Mozart mourra avant d'avoir complété son œuvre, c'est donc son élève, Franz Xaver Süssmayer, qui est l'auteur du Sanctus que nous entendrons. Il s'agit d'une courte pièce de ce Requiem qui est interprétée ici par le chœur Viennensis et l'orchestre de chambre de Vienne sous la direction de Hans Gilsberger. Un mot sur ce Requiem, M. Bouchard?
Je vais laisser les auditeurs l'apprécier.
Yeah.
La musique, vous disiez qu'elle est universelle. Il y a cependant des façons diverses de l'interpréter. Diriez-vous qu'au Québec, on a une façon particulière, si on se compare, par exemple, aux chorales qui existent en France ou dans d'autres pays de la francophonie?
Je vais parler au niveau du Canada. Il y a le Canada français et le Canada anglais. Mm-hmm. Il y a une différence qui existe de moins en moins, mais qui est encore un peu présente. C'est la notion de cette culture-là. Si on demande parfois, tu chantes dans une chorale, tu es un anglophone, alors à quel endroit tu chantes? Et si tu es francophone, c'est à quelle paroisse tu chantes? Il y a encore une connotation religieuse au Canada français, ou du moins au Québec.
Ça l'est moins dans le monde anglophone.
Ça le devient de moins en moins, et ça l'est moins dans le monde anglophone, effectivement. Alors, plus ça va, plus même en français, on pense un peu plus culture.
Est-ce que le chant populaire réussit à faire sa place au sein des chorales?
Il y a quelques années, le classique et le populaire étaient un peu opposés. Un trouvait l'autre snob, l'autre trouvait l'autre plus... Enfin, ça a beaucoup changé et ça l'a permis à beaucoup de gens qui avaient des connaissances musicales qui n'étaient réservées à peu près qu'au classique autrefois, maintenant de faire des harmonisations très intéressantes, même dans le populaire. Alors, le populaire, là, aujourd'hui, c'est quelque chose de très beau. Il y a des pièces qui sont populaires, qui sont transformées. Par exemple, je pense, La mer qui est transformée en jazz.
Oui.
Et ça fait des...
Ou les chants de vigneault, par exemple.
Ou des chants de vigneault. Alors, il y a toutes sortes de façons d'interpréter une pièce aujourd'hui et on peut même en modifier le style.
Oui. Alors là, je vais vous amener à faire une belle découverte que j'ai moi-même découvert en préparant cette émission. C'est vraiment très beau. Vous connaissez peut-être Don André Saint-Cyr, qui est maître de chœur depuis 1970 et professeur de technique vocale à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Il a commencé ses études musicales à l'École de musique de l'Université Laval et il dirige ensuite l'Institut pontifical de musique sacrée de Rome, où il a obtenu une maîtrise en musique sacrée en 69, un baccalauréat en composition sacrée. Ce qu'on connaît surtout de Don André Saint-Cyr, c'est ses enregistrements de chants grégoriens qui ont connu vraiment un vif succès à travers le monde. Mais là, je vais vous amener à entendre Don André Saint-Cyr interpréter un très beau chant. C'est pas du chant choral, c'est du plein chant. C'est extrait des Légendes dorées d'Yvette Guilbert, qui a pour titre l'Annonciation. Ce chant a été composé en 1914. Vous allez voir, ça nous replonge dans une atmosphère de piété qu'on a peut-être un peu vu disparaître au fil des ans. À tout le moins, écoutez bien, vous allez voir, c'est très beau.
Fermez les yeux.
Salut, rose vermeille, beau mot d'oriférant. Il n'est à vous pareil, dessous le firmament, douce merveille, dessous le firmament. Saint Gabriel, archange, vers vous est envoyé, vous apportant louange du doux salut Ave, douce merveille du doux salut Ave. Le Rédempteur du monde m'envoie pour vous choisir, afin qu'en vous féconde ce Dieu de l'avenir, douce merveille, ce Dieu de l'avenir.
Quand on entend cela, M. Bouchard, on revient à la notion d'intériorité, n'est-ce pas?
Absolument. C'est le début.
Est-ce que pour vous, le fait de vous être impliqué dans le chant choral, ça vous a amené à une intériorité plus grande?
Autrefois, je répétais dans tous les programmes de concert qu'on donnait, le chant contribue au physique, parce qu'il y a beaucoup d'aérobie, contribue au physique, donc remonte le moral, élève la spiritualité. C'était trois éléments auxquels je tenais beaucoup. Effectivement, ça m'a permis d'accéder à un autre niveau dans moi-même.
J'allais vous dire, vous qui avez connu le monde de la finance, qui avez évolué au sein des banques.
Les cinq chiffres.
Est-ce que c'est un besoin qui émerge après toutes ces années où on est dans un monde où l'intériorité n'est peut-être pas très présente, là?
L'intériorité, c'est très difficile à discuter de ça parce que tout le monde part d'un point différent. Par exemple, moi, je me suis retrouvé dans les banques parce que les mathématiques, c'était un de mes points forts. Si les mathématiques sont un de mes points forts, j'essaie de comprendre. Si j'essaie de comprendre, j'essaie de rechercher. Si j'essaie de rechercher, on part. Ça m'amène aussi à de l'intériorité. D'autres personnes vont suivre un chemin tout à fait différent. Alors, c'est un aspect de l'intériorité qui est personnel.
Est-ce que le contexte familial vous amenait à cette recherche spirituelle dont vous parlez?
À mon sens, à moi, c'est plutôt une déviation dans le sens où on fait des comparaisons de générations très souvent, puis c'est pas toujours valorisant. Alors, j'ai remis en question, comme plein de gens ont fait, et ma propre compréhension, comme la propre compréhension des autres, avec qui j'aime partager parfois aussi. On voit nos différences, mais on s'accepte. Et ça fait partie de l'intériorité qui me plaît.
Parlez-moi maintenant d'un individu de Sorel que vous connaissez bien, Franz Liessen.
Franz Liessen, c'est un chef de chœur. Et sa fille, Hélène, est aussi chef de chœur. Une épouse de Franz, qui est Louise, qui est également musicienne. Toute la famille, d'ailleurs, je ne me rappelle pas du nom du frère d'Hélène. Le père de Franz Liessen, qui s'appelle Auguste, était aussi musicien. C'est une famille de trois générations au moins. Et Auguste a fait de belles compositions dont vous allez faire une présentation, je pense, bientôt.
Bien, Auguste Liessen, qui est un Belge, est arrivé à Sorel au début du siècle et il est devenu professeur au Mont-Saint-Bernard de Sorel. Il a poursuivi sa carrière et il va fonder en 1924 la Société chorale Liessen en dirigeant un orchestre formé de ses meilleurs élèves. C'est peut-être ce que vous allez faire un jour.
et Franz Liessen dirige un chœur qui s'appelle aussi le chœur... le chœur en liesse.
Voilà, le chœur en liesse. Ben, nous allons justement entendre ce chœur en liesse qui va nous interpréter l'Agnus Dei de la messe Laudation, son œuvre maîtresse, composée à l'occasion d'un jubilé d'or sacerdotal. C'est donc son fils, celui que vous connaissez, qui dirige ce chœur. Un enregistrement qui a été réalisé d'ailleurs en Montérégie, en l'église Saint-Pierre de Sorel.
Et Auguste Liessen mériterait d'être beaucoup plus connu.
Alors on le découvre. Avec nous aujourd'hui, M. Ghislain Bouchard, qui dirige une chorale en l'église Sainte-Maria-Goretti de la paroisse Trinité-sur-Richelieu, en Montérégie. Et au moment où on vient d'entendre une œuvre dans une autre église de la Montérégie, vous disiez que M. Liessen devrait peut-être être mieux connu?
Bien, vous venez d'entendre un extrait, je crois, qui est exceptionnel. Et j'aime pas faire des comparaisons avec d'autres compositeurs, mais les auditeurs, je pense qu'ils peuvent apprécier ce qu'ils ont entendu et ça mériterait d'être au rang des compositeurs connus.
Est-ce qu'en cours de carrière de maître de chapelle, presque, vous avez fait des découvertes comme ça de musiciens ou de chants qui n'étaient peut-être pas très connus et où on se dit « wow ».
Ça arrive, et ça, moi, je vois ça surtout dans des harmonisations. Alors, des fois, il y a des pièces qui sont connues et avec des harmonisateurs que je ne connaissais pas et que je fais des découvertes. Je ne voudrais pas en nommer, mais j'en ai quelques-uns, effectivement, qui m'ont ébloui.
Et les droits d'auteur dans tout cela? Est-ce que ça, c'est un aspect qui est plus ou moins respecté? Parce qu'il y a tellement d'harmonisations possibles sur les chants, même populaires.
Oui. Mais d'abord, oui, effectivement, il y a parfois, pour des moyens financiers, on va acheter quelques partitions musicales et on va faire des photocopies. Il y a des harmonisations qui sont faites, je le sais, sans qu'on obtienne nécessairement le droit à l'éditeur premier. Ça arrive souvent dans le populaire. C'est dommage, mais c'est comme ça aussi. Si vous demandez aux artistes, eux autres aussi se font copier. C'est quelque chose qui est courant. C'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Il faut vraiment encourager de respecter, mais ça fait partie de l'humain.
On va sortir un peu du chant choral. Vous nous avez amené un chant qui est connu, qui est pas très récent, mais qui a vraiment un sens universel. On écoute les paroles encore aujourd'hui, elles sont très d'actualité. C'est « Le déserteur » de Boris Vian. Pourquoi cette chanson?
Vous savez, quand Boris Vian a sorti cette pièce-là, elle a été mise à l'index, elle a été défendue sur des ondes. Ça, c'est pour moi ce que ça représente, c'est que quand on est sûr de nos valeurs et qu'à un moment donné, on doit s'opposer à beaucoup de gens, malgré nos valeurs, jusqu'où on est prêt à aller. Dans le cas du déserteur, la question se pose jusqu'à est-ce que ça vient prendre est-ce que ça vient dépasser ton besoin de survie? Parfois, là, nos valeurs vont dépasser notre besoin de survie.
Alors, il écrit cette lettre au président.
Exact. Écoutons ça encore.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter après une telle chanson, M. Bouchard. Vous-même, vous me disiez que parfois l'homme vous désole.
Oui, je dis parfois que je déteste l'homme. Heureusement, il m'arrive d'aimer certains individus. C'est une blague qui a un fond de vérité, mais aussi, je dois bien admettre que j'aime beaucoup de gens.
Oui, mais qu'est-ce qui vous attriste? Qu'est-ce qui vous éteint, tiens?
Vous savez, quand on regarde l'être humain et qu'on regarde sa progression à travers l'histoire, on voit sa progression technologique, mais c'est toujours encore des guerres, c'est toujours encore l'exploitation, c'est la cupidité, les bas instincts qui mènent encore. Ça me déçoit beaucoup. Et comme pour ça, je dis qu'heureusement, il y a des individus que j'aime.
Alors, où se situe votre espérance?
Justement, dans ces individus-là, il n'en faut pas beaucoup pour faire une armée, c'est-à-dire pour inciter des gens. On a juste à regarder dans les dernières années ce qui se passe au niveau de l'environnement. Pendant des années, on a boudé ça. Alors ça, c'est ce qui désole. Et à un moment donné, un petit groupe d'individus qui a commencé à travailler, puis regardez aujourd'hui où on est rendu avec la prise de conscience qu'on en a. Ça, c'est ce qui m'allume.
Est-ce que le chant choral peut nous permettre une plus grande conscience à l'égard de ce monde dans lequel nous vivons?
Dans la mesure où je disais tout à l'heure que ça élève la spiritualité, bien, écoutons ce que notre corps a à nous dire, ce que notre planète a à nous dire. Allons un petit peu plus loin que juste dans le paradis fictif, là, c'est-à-dire que le paradis, on peut l'avoir ici, Le bonheur, c'est pas seulement quand on va décéder, c'est ici. Mais comment on peut y participer? Posons là la question. Quelle participation je peux y donner, moi, là-dedans? C'est le président des États-Unis qui disait, John Kennedy, « Demandez-vous pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire. » Ça veut dire « impliquez-vous ». Alors ça, oui.
Alors, M. Bouchard, histoire de mettre peut-être, pas un point final, mais presque, parce que le temps passe très rapidement, vous savez que Gabriel Fauré, qui a été musicien d'église durant 40 ans, se disait agnostique. Et pourtant, il a composé de très belles œuvres religieuses. Il a même composé une petite messe durant un séjour d'été sur la côte normande en compagnie de son compère André Messager. Elle a été écrite pour un chœur à trois voix de femmes. Cette messe basse fut donnée avec succès le 4 septembre 1881 dans une toute petite église de Vieilleville au profit de l'Association des pêcheurs de l'endroit. La pièce s'intitule « O Salutaris ». Elle est extraite de cette messe. Ce sera notre dernière pièce musicale. Elle est interprétée par Roberto Alagna, ce ténor français né en 1963 de parents immigrants siciliens, qui livre ici une interprétation vraiment remarquable de cette œuvre, pas très connue, mais tellement belle, et qui va peut-être rejoindre les propos que vous mentionnez, à savoir qu'il y a quand même de l'espoir, on peut regarder autour de soi, mais il y a encore des gens qu'on peut aimer.
Oui, il faut.
Ben voilà, avec cette pièce musicale, c'est tout le temps qui nous était accordé. Mais écoutez, on a passé une très belle heure en votre compagnie. Je serais porté à vous demander, quelle est votre destination bonheur à vous?
Trouver des réponses à la vie, mais quelque part, c'est un chemin à parcourir. Je pense que ce que je viens de dire, c'est qu'on n'atteint pas un bonheur total sans dire on emprunte un chemin. Et pas arrêter dessus. Il faut continuer d'avancer. Vous avez parlé de M. Fauré qui était agnostique. Je ne crois pas que ce soit un défaut. Bon, il y a des croyants, on parle, puis l'inverse, on parle des athées. Un agnostique, c'est quelqu'un qui dit « je ne sais pas ». Et je cherche. La plupart du temps, quelqu'un qui se qualifie d'agnostique, c'est parce qu'il cherche. Sans ça, il se qualifiera de rien. Donc, j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui dit qu'il est agnostique.
Et vous savez que le doute est souvent plus angoissant pour l'athée qui peut se dire « et si Dieu existait? »
C'est vrai, j'ai déjà posé la question à un prêtre de mes amis. Quelle est la différence entre un chrétien qui doute et un athée qui espère se tromper?
Ouais.
Alors, l'agnostique, c'est peut-être un peu ça.
Et vous, votre cheminement vous amène quand même à une certaine espérance dans votre destination bonheur?
Je veux dire quelque chose maintenant, là. Je suis moi-même agnostique, chrétien, parce que je crois aux valeurs qui sont véhiculées, que le Christ a apportées. Mais je cherche. Et en tant que chercheur, je ne peux pas... Je veux dire un peu comme Saul. Il devrait y avoir des trouveurs, mais il n'y aurait plus de chercheurs. Donc, quand j'aurai trouvé, je ne serai plus agnostique. Alors, c'est pour ça que je dis que le bonheur, c'est un chemin à parcourir et non pas quelque chose qu'on atteint comme tel.
Alors, on vous souhaite un merveilleux parcours. On vous remercie infiniment de ce temps précieux que vous nous avez accordé et qui nous a permis d'entendre de si belles pièces musicales.
Merci à vous.
Alors, c'était l'émission Au gré du temps. Armand Dubois au micro. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique d'Alain Primeau. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. D'ici là, passez une belle semaine. Au revoir.